et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous. Depuis hier, le 26 juillet, et jusqu'au 31 juillet, la ville de Cracovie, en Pologne, accueillera le monde pour les 13e journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, un événement lancé par le pape Jean-Paul II le 23 mars 1988. Le thème cette année des JMJ est « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et les catholiques africains ont fait le déplacement selon leurs moyens. Les catholiques africains, justement, ils sont le thème de nos échanges ce soir. Ces catholiques africains ont-ils leur place au sein de l'Église? Sont-ils en bonne place? Le catholicisme est en baisse partout dans le monde, sauf en Afrique, où ils croient. 140 millions d'Africains seraient catholiques aujourd'hui. Est-ce que ce chiffre impressionnant est répercuté dans la hiérarchie de l'Église, dans ses rites, dans sa communication? Qu'en pensez-vous? Partagez avec nous votre opinion, vos réflexions. Un numéro de téléphone 001 202 619 79 25. Je répète, 001 202 619 79 25. Et avec nous, pour en parler, mon confrère à Rome, Albert Mianzoukouta, de Radio Vatican, au Vatican plutôt. Albert Mianzoukouta, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs.
Merci Albert d'être avec nous. Alors d'abord, quelle est l'ambiance au Vatican alors que la jeunesse croyante, la jeunesse chrétienne catholique est en Pologne?
C'est une ambiance qui est toute à l'unisson de ce qui se vit à Cracovie depuis hier.
Oui, donc, j'imaginais bien.
Une ambiance, j'allais dire, détendue, de joie, de festivité en quelque sorte, puisque l'événement draine quand même des milliers de personnes, de jeunes venus du monde entier autour du pape, autour du thème, autour de ce qui fait le centre d'une journée mondiale de la jeunesse. Donc voilà. Le Vatican est tout à fait à cela. La plupart des activités, d'ailleurs publiques, bon, nous sommes pendant la période des vacances, c'est vrai, mais beaucoup d'activités tournent au ralenti à cause ou grâce à cet événement. Je ne sais pas comment on prend le problème.
C'est selon. Selon qu'on soit croyant ou pas, j'imagine aussi.
Voilà, exactement.
Albert, est-ce que vous pouvez nous décrire, pour ceux parmi nos auditeurs qui ne sont pas croyants ou pas familiers, qui ne sont pas chrétiens catholiques, ou qui ne sont pas familiers de la culture chrétienne catholique, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que sont les JMJ?
Alors, les JMJ, vous l'avez dit, c'est une invention, entre guillemets, hein, du défunt pape Jean-Paul II, qui avait pensé que les jeunes du monde avaient le droit, le besoin, de se retrouver en un lieu à un moment donné. Vous savez, on célèbre de grands événements de joie dans l'humanité, ne serait-ce que les Jeux Olympiques que nous allons célébrer dans une semaine. Il y a les Coupes du Monde, les Coupes de ceci, de cela.
Albert, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les JMJ, ce sont les Olympiades de la jeunesse catholique?
On peut le dire. On peut le dire comme cela, oui, avec des bémols quand même. Donc voilà, c'était se retrouver autour d'un thème, ressourcer cette jeunesse autour de la personne de Jésus-Christ par le partage aussi, donc avec une idée en arrière-fond, celle de briser les barrières entre les jeunes, entre les races, entre les cultures, donc et de se retrouver autour du seul message de Jésus-Christ.
Former une seule église finalement.
Voilà, exactement.
Quel pays africain, puisque vous êtes sur VO Afrique, quel pays africain ont envoyé des jeunes en Pologne, vous savez?
Alors, je le sais très peu, je dois avouer, mais il y en a quelques-uns qui se sont manifestés dans les réseaux sociaux.
Oui.
Je le sais très peu parce que, et ça c'est la difficulté de toutes les JMJ depuis qu'elles sont fondées, c'est que entre ceux qui annoncent leur venue et ceux qui effectivement arrivent, eh bien il y a toujours un petit gap pour des tas de raisons, des tas de problèmes. Mais ici, donc en regardant cette journée même sur les réseaux sociaux, je sais que le Sénégal a envoyé pas moins de 100 jeunes qui sont venus en plusieurs vagues d'ailleurs. Je sais que le Rwanda a envoyé aussi ses délégués. Je sais de manière sûre que le Burkina Faso est présent et là, alors, d'une manière très visible.
Alors, eux ont fait beaucoup de bruit. Je sais, par exemple, que les Burkinabés, 90 jeunes ont été envoyés. Ça je l'ai lu.
Exactement. Voilà, en fait, c'est ce qui est dit donc sur leur portail, le portail de leur église. Et donc, ainsi de suite. s'il y a les habitués de ces JMJ, que sont par exemple les jeunes du Gabon, que sont par exemple les jeunes de la République démocratique du Congo, que sont par exemple les jeunes du Congo-Brazzaville. Mais je avoue que je n'ai pas eu la sensation que cette année, ces trois pays se soient... Ah oui, il y avait aussi à citer le Tchad. C'est remarquable parce que c'est un pays majoritairement musulman, mais dont la jeunesse chrétienne est très dynamique. Le Tchad a envoyé des jeunes aussi au JMJ.
Voilà. Alors, si vous nous écoutez, chers auditeurs, et que vous êtes dans l'un des pays qu'Albert a cité, le Tchad, le Gabon, le Sénégal, l'un des deux Congos, n'hésitez pas à nous appeler pour partager avec nous ce que vous pensez de ces JMJ, de la place de l'Afrique au sein de l'Église, 001-202-619-79-25. Mais si vous n'êtes pas chrétien catholique, vous avez le droit d'appeler aussi pour poser des questions. Albert répondra, j'en suis sûr, très volontiers, ou bien simplement pour partager avec nous votre point de vue sur ce qui se passe au sein de l'Église catholique. Un auditeur est avec nous, il s'appelle Christian Djerabé. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Christian. Où êtes-vous en Afrique?
Je suis en Gabon, en fait.
D'accord, mais justement, on parlait du Tchad. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place des Africains au sein de l'Église catholique?
Oui, par rapport à la place des Africains dans l'Église catholique, l'Afrique représente... l'Afrique a une place quand même dans l'Église catholique. Ce que j'aimerais savoir sur l'administration de l'Église catholique, la place des Africains dans l'administration catholique. Après 50 ans, dans les églises catholiques, nous avons toujours des évêques étrangers. Pourquoi l'Afrique ne peut pas accéder à cette place? Ma deuxième question est de savoir combien de papes africains nous avons maintenant.
Alors la première question, qu'on soit bien clair, Christian, quelle est-elle?
Ma première question est de savoir pourquoi aujourd'hui dans les églises catholiques nous avons toujours des évêques étrangers.
Donc là, vous posez la question de la place dans la hiérarchie administrative de l'Église. Alors, merci pour votre question d'abord, et je me tourne vers vous, Albert. Effectivement, est-ce que l'administration chrétienne catholique reflète la diversité des croyants, et notamment côté Afrique?
Alors, d'abord, qu'on soit bien clair que le problème n'est pas à gérer de manière, administrative, comme si nous étions dans un parti politique, où il y a telle personne qui représente tel courant, et donc il faut les mettre au prorata du nombre ou de l'influence qu'ils exercent. Ici, nous sommes dans Église. Église catholique, qui veut dire catholique, veut dire universelle. Et quand on voit l'origine même de l'arrivée de la foi chrétienne en Afrique, elle a toujours été portée. Elle a été portée, mais pas seulement en Afrique, d'ailleurs dans le monde, elle a été portée par des étrangers. Moi, je vous parle de Rome, ici c'est Paul de Tarse et Pierre, donc qui sont partis de Terre Sainte pour venir évangéliser ici. C'était des étrangers, ils n'étaient pas romains, et ainsi de suite. Donc la question ne se pose pas, ou en tout cas, elle ne devrait pas se poser. Alors, mais c'est quand même une préoccupation légitime de dire que pourquoi est-ce qu'après 50 ans des indépendances, par exemple, on continue de trouver des évêques étrangers dans les hiérarchies de l'Église, dans les diocèses africains.
Surtout dans la mesure où, Albert, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que dans les hiérarchies des Églises occidentales, disons, en Europe, plus clairement, dans les pays anciennement colonisateurs, on ne trouve pas des évêques d'origine africaine. Donc, cette universalité que vous prônez, est-ce qu'elle est effective au sein de l'Église?
Alors, elle est effective, je peux l'affirmer, même si cela peut vous paraître surprenant. Vous savez, une petite incise. Nous sommes actuellement en train de pleurer, de verser vraiment des larmes, de communier à la peine, à la douleur du peuple français. Un prêtre vient d'y être assassiné, il avait 86 ans.
Absolument. Oui, absolument, oui.
Oui, ce prêtre était l'adjoint d'un prêtre de la République démocratique du Congo. C'est un détail que personne n'a signalé.
Qu'on ne connaissait effectivement pas.
Le curé de cette paroisse de Pardon ?
On ne connaissait pas ce détail, effectivement.
Oui, c'est ça, voilà. Le curé de cette paroisse, donc curé, ça veut dire responsable de la paroisse, hein, le responsable hiérarchique.
Responsable de la cure, oui.
Un prêtre congolais de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs a été parmi ceux qui ont envoyé les premiers messages de condoléances, disant que, bon, c'est vraiment dommage qu'il ait été absent au moment où on faisait de la douleur, de la souffrance à son adjoint, un père qui avait 86 ans, mais qui avait accepté de se plier à la loi de l'Église. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Et c'est vrai que, bon, nous n'avons pas beaucoup d'évêques, disons, d'origine africaine dans d'autres pays. Mais le mouvement est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'il fut un temps, jusqu'à il y a 50 ans, il y a 40 ans même, où c'était le Nord qui venait évangéliser le Sud. Et aujourd'hui, je vous assure, lorsque vous circulez dans les paroisses en Italie, en France, en Allemagne, eh bien, il y a beaucoup de nos prêtres, de prêtres africains, qui sont aujourd'hui des gestionnaires de paroisses à des postes de responsabilité. Cela ne va pas encore jusqu'à être évêque. Les cas, en tout cas, ne sont pas très nombreux. Cela ne va surtout pas jusqu'à être pape, hein, parce que c'est aussi cela en filigrane, je crois, le bout de la question. Mais c'est un mouvement qui est enclenché, et d'ailleurs, il ne peut pas en être autrement. C'est pourquoi je dis l'Église est universelle. Il ne peut pas en être autrement, c'est simplement la loi du nombre, n'est-ce pas? Lorsque vous avez un Occident qui non seulement se déchristianise, mais se dépeuple aussi démographiquement parlant, il y a moins d'enfants, moins de jeunes, et moins de jeunes surtout qui s'adonnent à la religion.
Donc cette transformation visible est à venir. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. C'est le dialogue des religions que vous écoutez sur VOA Afrique. Aujourd'hui, notre thème d'échange, c'est la place de l'Afrique au sein de l'Église catholique. Appelez-nous. Le numéro n'a pas changé. 001 202 619 79 25. Et au 001 202 619 79 25, un deuxième auditeur, Alphonse Mouaki, bonsoir. Bonsoir Alphonse à Kinshasa. Allô Alphonse? Il semblerait qu'on ait du mal à joindre Alphonse. Eh bien, nous... Il est là. Il ne se laisse pas distancer si facilement, Alphonse. Comment allez-vous?
Je marche, ça marche, à la sauf que toi tu es venu, tu vois, vraiment j'ai manqué de te voir, j'avais vraiment des brûlures d'envie de te voir.
Ça aurait été vraiment chouette, effectivement. J'ai fait un voyage, j'ai eu la chance d'effectuer un voyage à Kinshasa et on aurait pu se rencontrer, se croiser. Écoutez, espérons qu'il y en aura d'autres, ça n'est pas le dernier.
Okay.
Heureusement qu'entre-temps, il nous reste la radio.
Vous savez qu'en ce qui concerne le sujet du jour,
oui.
Moi je pense qu'en RD Congo, j'ai rejoint Nyanzukuta, je pense.
Oui.
Je ne vais pas massacrer ce nom-là.
Non, pas du tout.
Je pense. Alors, moi je pense qu'il faut pas voir la question en termes des partis politiques, mais c'est en termes de l'Église universelle. Donc, en RD Congo, en tout cas, il y a vraiment une diversité. Diversité, comme vous venez de le souligner, il y a beaucoup de noirs, hein, mélangés avec les blancs, qui occupent l'administration de l'Église catholique. Il y a des curés noirs, il y a des prélèves, des abbés, des cardinaux.
Je vous entends bien, Alphonse et Albert, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Finalement, l'Afrique est parfaitement placée au sein de l'Église et on n'a qu'à laisser faire le temps, c'est ça?
Oui, voilà. J'allais souligner le problème du prêtre noir là qui était le dirigeant de celui qu'on fait des tueurs en France, mais Nyanzukuta a anticipé en tout cas vraiment pour voir que vraiment l'Église est universelle. C'est une question de vocation, c'est une question. Lorsqu'on a la vocation, ça ne dépend pas des couleurs des reins, des couleurs des peuples, ça ne dépend pas des continents. Lorsqu'on a la vocation de devenir prêtre ou que ça soit noir ou que ça soit noir, on accepte cette certaine telle qu'elle. Donc, je pense que l'Afrique est fortement représentée. Le Congo, par rapport au Congo, en tout cas, il y a beaucoup de Noirs qui sont fortement représentés dans l'administration de l'Église catholique. Et puis encore, en ce qui concerne la journée, je pense que c'est là l'occasion pour le pape de pouvoir enseigner les hommes à les jeunes gens qui sont réunis à Cracovie de ne pas se radicaliser. Comme le thème qui a été, le thème qui a été choisi, c'est errer le miséricordieux et puis obtenir le miséricordieux. Je pense que c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est la non-vengeance envers ce qui se passe dans le monde lorsque nous voyons les musulmans, puis les Syriens qui sont réfugiés dans certains pays de l'Europe, notamment en Pologne. Je pense que c'est l'occasion pour le peuple est donnée pour qu'il puisse inculquer, enseigner aux jeunes de ne plus se radicaliser, de ne plus se lancer, de ne plus tomber dans l'islamophobie, mais de pouvoir accueillir les Syriens dans leur pays, surtout les Européens, les Syriens.
Le message est bien passé, Alphonse. Merci beaucoup et bonne soirée à Kinshasa. Faites comme Alphonse Mbouaki, appelez-nous au 001-202-619-7925, la place de l'Afrique au sein de l'Église catholique, que vous soyez catholique ou pas. Vous avez votre mot à dire sur VOA Afrique. Albert Mianzoukouta, vous vouliez ajouter quelque chose au propos d'Alphonse?
Oui, mais non, il a justement dit les choses essentielles, celles qui vont dans la direction de ce que nous soutenons là depuis le début de notre dialogue, qu'à savoir, ça n'est pas une question de savoir combien de blancs, combien de noirs, combien de jaunes il y a à tel ou à tel autre endroit, parce que généralement, même quand cela se fait, ça ne se fait pas sur la base de la race, ça se fait sur des critères qui sont objectifs, peuvent être de compétences, peuvent être simplement de simples arithmétiques, peuvent être aussi simplement de la forme administrative, j'allais dire normale, de gestion de l'Église catholique qui a plus de 2000 ans de vie. Et donc, on a vu, c'est le cas de le dire, de toutes les couleurs. Au Vatican, puisque nous parlons de hiérarchie, eh bien, il y a des évêques, il y a des cardinaux qui sont africains ou d'origine africaine. L'un des plus, comment dire, immédiats collaborateurs du pape aujourd'hui, c'est quand même le cardinal Laurent Mosengo Pasinia, archevêque de Kinshasa, mais qui est surtout, je dis surtout, en fonction du thème que nous avons choisi. Et le surtout n'est pas une affirmation de priorité ni de grade, mais il est membre du conseil des 9 cardinaux que le pape s'est choisi pour la réforme de l'Église catholique. Donc, en quelque sorte, c'est lui qui représente l'Afrique au sein de ce conseil des 9 cardinaux. Ça n'est pas rien. Et avant lui, nous avions le cardinal Francis Arinze, un cardinal nigérian qui est resté longtemps à la tête d'un ministère du Vatican. En même temps, d'ailleurs, qu'il y en a eu un autre qui a marqué les esprits et l'histoire, le cardinal Bernardin Gantin. Aujourd'hui, nous avons le cardinal Robert Sara. Nous avons le cardinal Peter Akwa Kodo Turkson, qui est président du Conseil pontifical Justice et Paix, c'est-à-dire le ministère Justice et Paix du Vatican. Donc voilà, je peux citer comme cela, mais ça me gêne un tout petit peu de les citer parce qu'ils sont noirs ou africains. Je veux dire, ce sont des cardinaux, ce sont des compétences que le pape a appelées et qui apportent leur contribution à l'Église, non pas en tant que noirs ni africains. Peut-être que cela joue aussi, d'ailleurs, pourquoi...
Ah bah, j'espère bien que ça joue aussi. Par exemple, vous parliez du Congo, un pays que je connais un peu. Il y a ce culte, ce rite congolais qui a été intégré aux célébrations catholiques. Donc, bien sûr que l'identité des croyants joue et influe sur la manière de prier.
Oui, non, bien entendu. Le rite, vous parlez du rite
congolais,
zaïrois de la messe.
Absolument.
Hein, maintenant, rite congolais, effectivement, qui a imposé un certain nombre de rituels qui sont typiquement africains dans la célébration de la messe. C'est un enrichissement vrai. Vous savez, cette semaine vient de se terminer à Luanda, en Angola, la réunion de tous les évêques d'Afrique. ils ont réfléchi autour d'un thème, ils ont débattu d'un thème qui est très prenant pour les églises africaines,
oui.
Le thème de la famille. Alors, vous savez que c'est une véritable question, parce qu'il y a eu deux synodes sur la famille au Vatican. Là, ce sont les évêques eux-mêmes qui se sont saisis, les évêques africains qui se sont saisis librement de ce thème en disant, pour nous, la question familiale est importante. Elle est importante parce que nous avons des valeurs, nous, en tant qu'Africains, et qui peuvent s'exprimer au sein de l'Église. Donc, être, j'utilise un mot comme ça à dessein, fécondé par l'évangile de Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'inculturation, mais l'inverse doit aussi être regardé avec discernement lorsque nous voyons que l'évangile nous est venu de l'Occident, mais qu'aujourd'hui cet évangile est parfois brouillé par des visions sur la famille qui ne s'arrêtent pas à la notion première d'un homme, une femme qui sont mariés devant Dieu en vue de la procréation, mais qu'il y a d'autres formes d'union qui sont présentées comme des formes de liberté, comme des formes d'avancement sociétal, et ça ne s'arrête pas là, qui sont imposées parfois à l'Afrique. On en fait une conditionnalité dans les programmes d'aide. Et là, les évêques ont dit, non, attendez, nous avons aussi notre mot à dire dans cela. Vous, Église d'Occident, n'allez pas trop vite, ne courez pas avec ceux qui courent à côté de vous et qui sont porteurs peut-être d'une vision digne, mais qui n'est pas tout à fait en compatibilité avec les Écritures, ou en tout cas avec ce que les Africains comprennent de l'Écriture, des Écritures saintes.
Allez, retour au standard du dialogue des religions ce soir, au 001 202 619 79 25. C'est Bakary Keïta qui est avec nous. Bonsoir, Bakary.
Ah, bonsoir.
Soyez le bienvenu. Alors, quelle est votre question ou qu'est-ce que vous voulez partager?
J'ai quand même des questions, mais si vous me permettez,
oui.
Je m'incline à la mémoire quand même du prêtre qui a été assassiné à Paris, en France plutôt. Donc, l'islam ne connaît pas dans des actions pareilles.
Très
maintenant,
bien.
Revenons à nos moutons. Une telle rencontre est à saluer parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Même pour tonifier les croyances, il faut faire appel vraiment aux jeunes. Et l'Afrique doit jouer vraiment une place vraiment de paix, de solidarité vraiment dans les religions catholiques. Maintenant, je vais poser des questions. Est-ce que l'Afrique a la chance d'abriter une telle rencontre?
Ah, c'est une question lancinante, oui. Deuxième question.
N'est-il pas préférable de tenir une rencontre de ce genre dans les pays fortement islamisé pour lancer un appel pressant aux ministres de la paix, c'est-à-dire les terroristes.
Albert?
Dis oui à la première question et non à la deuxième. La première, est-ce que cela est possible en Afrique? Tout à fait, pas de problème. Enfin, quand je dis pas de problème...
Pas de problème, vous allez un peu vite, Albert.
Pardon?
Pas de problème, vous allez peut-être un peu vite.
Oui, non, c'est ce que je dis. C'est une manière de parler. Un moment, les JMJ ont été envisagés même à être transposés au Kenya, par exemple.
Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, vous savez, ici, le problème n'est pas une question ni de noir, ni de ceci, de cela. Le problème, il y a deux aspects à tenir en compte. D'abord, des infrastructures accueillantes. Est-ce qu'il y a, quel est le pays africain aujourd'hui qui se prête à accueillir une marée de jeunes comme ça?
Vous les avez nommés, l'Afrique du Sud, peu quand même. Vous avez nommé l'Afrique du Sud?
L'Afrique du Sud, oui, non, mais attendez, donc au-delà des infrastructures, il y a aussi la capacité financière, parce que ne croyez pas que tout cela aille de soi, que cela ne... lorsque vous organisez en Afrique du Sud une Coupe du Monde, vous savez que vous en attendez des retombées financières qui peuvent donc rééquilibrer les dépenses. Les JMJ sont par définition un événement d'église et qui donc... S'il y a des retombées, ça ne peut être que par ricochet, mais le but des JMJ, ça n'est pas de faire de l'argent ou de faire retourner de l'argent à la Pologne par rapport à ce qu'elle perd aujourd'hui en infrastructure, en accueil, en sécurité.
D'accord. Alors, pour qu'on avance un peu, le but des JMJ, Albert, ça n'est pas non plus de lutter contre le terrorisme.
C'est-à-dire que lutter contre le terrorisme, c'est une mission qui est général à tous les croyants. Donc, les JMJ ne se focalisent pas en particulier sur le terrorisme. Nous parlons du terrorisme aujourd'hui parce que c'est un des sujets de l'actualité brûlante. Mais il y a d'autres préoccupations dans le monde. Et les JMJ étant, j'allais dire, une émanation de l'Église ou de la chrétienté, eh bien, elles se saisissent de ce qu'il y a comme priorité, comme angoisse du moment, si on doit y répondre. Donc, aujourd'hui, c'est le terrorisme, mais peut-être que dans 3 ans, ce sera autre chose, donc on verra bien. L'autre question qui a été posée, ne serait-il pas judicieux de tenir les JMJ dans des pays islamistes ? D'abord, vous savez, donc, autant les JMJ ne sont pas destinés à lutter contre le terrorisme, autant ça n'est pas non plus un instrument ni de vengeance ni de provocation. Il faut que nous soyons bien, bien, bien conscients de cela. Quel est le pays ? Désignez-le.
Oui, c'est
que
ça.
Nous pourrions pointer du doigt en disant, voilà, vous êtes le pays d'où proviennent le plus grand nombre d'islamistes. Nous venons vous imposer des JMJ, comme ça, vous aurez un peu plus de meilleurs sentiments. Ça serait une approche tout à fait contre-productive, tout à fait négative, et les JMJ, ça n'est pas cela. En plus, un petit détail, n'oubliez pas, qu'on ne l'oublie pas, que les JMJ, oui, c'est un événement chrétien, mais il y a les jeunes du monde entier qui y sont invités, quelle que soit l'appartenance de foi dont ils relèvent. Aujourd'hui, à Cracovie, il y a même des jeunes musulmans. Donc, vous comprenez que ça n'est pas une question à trancher dans ce sens de vous ou nous, vous comprenez ?
Très bien, ça a été très clairement dit. Écoutez, cette émission touche à sa fin, Albert. Je vous laisse le mot de la fin à propos de ces JMJ.
Alors voilà, donc un des auditeurs a dit une chose qui est essentielle, c'est que les jeunes ont aussi, eux aussi ont un rôle à jouer dans la paix du monde, dans la marche du monde. Et c'est sur eux que repose l'avenir de l'humanité.
Merci beaucoup Albert Nyanzoukouta, mon confrère de Radio Vatican. Merci infiniment pour vos éclairages. Merci à vous qui avez posé vos questions, qui avez commenté sur Facebook. Merci également à Joselle Morissin, à Monsieur Lopèche, qui était à la technique. Bonne soirée, restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique.